Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur 90 FM.
Et vous écoutez Radio B. Bienvenue.
Nous sommes les jeunes de la pyramide Agora à Lagneux, une branche d'Alpha 3A.
Vous écoutez notre émission spéciale, le mystérieux pensionnat de Lagneux.
Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons mené un projet Radio B avec Radio B.
Et pour créer cette émission, nous sommes partis à la découverte du patrimoine local.
Au départ, nous avons choisi de vous parler du pensionnat des frères de la Croix de Jésus à Lagneux.
Mais nos recherches ne nous ont pas donné beaucoup de réponses, ou seulement des informations invérifiables, sans source sûre.
Par exemple, on a beaucoup entendu dire que l'école actuelle a été transformée en hôpital.
Mais aucune date ne nous a été donnée et aucun écrit n'a confirmé cette rumeur.
Alors, avec Anthony, Assia, Elsa, Arnaud et Jade, on a décidé d'élargir notre champ de recherche.
C'est pour cela qu'on va vous parler de l'évolution de l'école et de la vie des vignerons, car Lagneux a un passé de cité viticole.
Suivez-nous pour plonger dans l'histoire de Lagneux.
On commence tout de suite avec la chronique d'Assia et d'Anthony qui nous présente le pensionnat des frères de la Croix de Jésus.
Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices, je suis Assia.
Et moi, Anthony. Et oui, le pensionnat des frères de la Croix de Jésus, qui est maintenant l'école maternelle du centre, est aujourd'hui totalement oublié des habitants de Lagneux et sa région.
Le pensionnat des frères de la Croix de Jésus a été fondé en 1830. Il était dirigé par le frère Louis.
Ce pensionnat catholique privé pour garçons avait 6 niveaux de classe. Le catéchisme y était obligatoire.
Selon l'abbé Joseph Rousset, auteur du livre « Histoire de Lagneux en Bugey », 200 élèves y passaient chaque année.
Ils y étudiaient 24 matières, par exemple histoire, dessin, physique, chimie, musique. Les langues vivantes étaient enseignées à la demande des parents. Il y avait des matières plus originales pour les élèves d'aujourd'hui, comme la tenue des livres, l'hygiène, la botanique, le style.
Selon l'une des personnes interrogées, les enfants dormaient sur place.
L'abonnement était payé grâce à leur bourse, leurs allocations et la famille.
Le prix de la pension était de 35 francs par mois, payable par trimestre et d'avance. Dans cette somme, il y avait les frais de blanchissage et de raccommodage.
Pour ce qui était des fournitures classiques, en 1830, les frais pharmaceutiques, visites médicales et les soins particuliers, tout ça était à la charge des familles.
Les familles pouvaient aussi fournir, ou non, toute la literie. Les élèves pouvaient donc arriver avec leurs matelas et leurs draps, sinon les familles payaient 15 francs par an.
D'après une publicité de l'époque, la nourriture saine, les promenades et l'air pur et balsamique offraient d'excellentes conditions hygiéniques qui permettaient de faire briller la santé sur tous les visages et un entrain remarquable animait les récréations.
Ces étudiants n'avaient pas d'uniforme à part des casquettes brodées aux chiffres de la maison ainsi qu'un chapeau de paille.
Les instituteurs étaient payés environ 200 francs par mois.
À cette époque, le pensionnat avait une chapelle, ce qui confirme que ce fut une école catholique. Une gravure de l'époque nous le confirme. En effet, on y voit un médaillon contenant une croix. Autour de la croix figurent des mots en latin, « In hoc signo vinces », qui signifie « Grâce à ce signe, tu vaincras ».
Enfin, cette école a été dépouillée en 1903.
Elsa va nous expliquer pourquoi dans quelques instants.
À ce moment-là, au début du XXe siècle, les biens des frères ont été vendus, la maison confisquée. Elle est devenue la propriété de la ville de Lagneux.
Le pensionnat a été en grande partie démoli pour devenir une maison d'école communale.
Merci Assia, merci Anthony.
On reçoit maintenant Elsa qui nous parle de l'évolution de l'école, car on se demandait comment un établissement catholique avait pu devenir public.
Bonjour Elsa.
Bonjour les filles. Comme vous le savez, toute la semaine, nous avons fait des recherches sur le pensionnat des Frères de la Croix de Jésus. C'était une école catholique à Lagneux. Elle a été fondée en 1830. Mais, dès 1816 en France, le chanoine Claude-Marie Bochard avait fondé une communauté religieuse destinée à l'enseignement. Au XVIe siècle, l'État royal confie l'enseignement à l'Église catholique car elle est la seule à avoir les moyens financiers pour le faire. La communauté religieuse s'intéresse d'abord à la scolarisation des futurs cadres civils et militaires du pays. En parallèle, les rois Louis XIV en 1698 et Louis XV en 1724 ordonnent que des écoles paroissiales ouvrent dans chaque communauté de villageois, sous le contrôle d'un curé. Mais il n'y a pas assez de curés et on charge finalement le premier venu d'instruire les jeunes campagnards. Former des enseignants devient alors urgent. Mais, entre République, Empire napoléonien et royauté, le système politique français est changeant. Par exemple, les jésuites sont expulsés de France en 1764. Puis la Révolution française en 1789 nuit aux économies de l'Église car les impôts religieux sont supprimés. Et en même temps, les philosophes demandent la baisse du rôle de l'Église dans les affaires publiques. Voltaire en tête. Ils se lancent à l'assaut du pouvoir de l'Église qui représente pour eux toutes les oppressions. Ils se battent alors pour la tolérance. Mais en 1822, alors que Charles X monte sur scène, Claude-Marie Bochard installe un noviciat dans l'Ain, dans sa propriété de Ménestruel. Et bientôt, les religieux dirigent de nombreuses écoles dans le département. 1879 et 1882, l'enseignement primaire devient obligatoire, laïque et gratuit grâce aux lois Ferry. À cette époque, la volonté politique et sociale de la Troisième République est d'instruire les citoyens et d'installer partout sur le territoire les valeurs républicaines. Au début du XXe siècle, les politiques françaises se radicalisent encore plus à l'égard des congrégations religieuses enseignantes. Les membres de la communauté des Frères de la Croix de Jésus migrent définitivement vers le Canada. En effet, les lois républicaines ont été votées. En 1901, la loi sur les associations. En 1904, une loi qui interdit l'enseignement par les religieux. En 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Elle instaure le principe de la laïcité. Ce sont les fondements du système scolaire tel que nous les connaissons aujourd'hui.
Merci à toi Elsa pour ton énorme travail de recherche. Je crois que tu n'as pas quitté le bureau de toute la semaine, c'est bien ça ?
Oui, c'est vrai, même quand je mourrais de faim.
Radio B, les bonnes ondes.
Vous l'avez compris, le pensionnat est aujourd'hui l'école maternelle de Lagnieu, autrement dit l'école du centre.
Joséphine, Atsem dans deux classes, nous a fait visiter.
Ce que j'ai, c'est qu'il y a des endroits où c'est fermé, donc à part visiter les trois pièces qu'il y a là et puis les trois qu'il y a là, c'est tout ce que vous verrez ce matin. Voilà, allez-y, rentrez. Ma première collègue avec qui j'ai travaillé il y a maintenant bien 6 ans qu'elle n'est plus là, elle avait dit que dans le temps avant, il y avait des... Enfin, il y avait des religieuses et donc après, ça a été l'école après. Il y a eu aussi l'école donc, qui était divisée en deux, l'école des filles. Il y avait les filles et les garçons. C'est vieux, vraiment quand c'était... parce que ici, tout ça, là, c'était carrément fermé. Donc l'entrée n'était même pas de ce côté. Donc ici, pour nous, c'est notre salle de motricité. Là où les enfants viennent faire la gymnastique. Ici, nous sommes dans un bâtiment où ce sont les grandes sections qui sont de ce côté-là. C'est composé en deux parties. Il y a 3 ans, il y a eu vraiment des modifications, même avec les murs.
Parce que vous savez ce qu'il y avait avant sur ces murs ou autres ?
Là, oui, ça a été refait avec en plus moderne, hein, bien sûr. C'était certainement des murs tout en pierre. Tout ça, ici, la différence, la pierre était là. Là, c'est de la pierre. Ça a été recouvert, mais là, c'est de la pierre naturelle.
Oui, ça sent.
Vous voyez, comme là, on le voit bien. Voilà, ça c'est de la pierre naturelle. Parce que là, ici, ça devait. Voilà, il y a un conduit cheminé, là, si vous regardez bien.
Ah ouais, le petit truc.
Donc la salle, vous dire la salle de quoi c'était ?
Une salle de vie, je pense.
C'était une salle de vie.
Ou salle.
C'est bien les anciennes pièces où, dans le temps, on retrouvait bien ces cheminées bien encastrées dans la pierre. Donc ici, nous sommes dans la salle de classe des grandes sections. Moi, je suis Atsem dans cette classe, puisque je travaille sur 2 postes, les grandes sections et les moyennes sections. Donc, de ce côté, il y a la maîtresse. De ce côté, c'est moi, pour les arts plastiques. Il me semble, si j'ai bien les souvenirs, ici c'était le coin, la salle repas.
Et les portes, c'était des portes qui étaient déjà là avant.
Moi, quand je suis arrivée ici, les portes, elles étaient là.
Ouais, c'était des portes en bois, elles devaient être vieilles.
Vous avez 20 ans que vous travaillez là, du coup.
Moi, ça fait 16 ans.
L'école du centre, elle a été ouverte quand? L'école telle qu'on la connaît.
Alors moi, je suis venue à l'école du centre.
Ok.
Donc je devais être en maternelle ici.
D'accord, donc déjà en
donc
60.
Ça, donc déjà.
Après ça s'arrête là, on va pas pouvoir monter en haut.
Ah oui, ok.
On va pas pouvoir monter en haut.
Vous voyez là, certainement qu'il devait y avoir la cheminée. Hein.
Oui, bah oui.
On voit bien la différence entre là et là. Le mur, ça a été fermé là.
Ouais.
Même là. Hein.
Même là, oh, voilà.
Ça se voit.
Parce que c'est de la pierre.
Hein. Voilà.
C'est pas uniforme.
Non.
On sort dans la cour pour voir.
Allez.
Non, c'est ici, c'est là-bas.
Vous êtes à pied?
Ouais.
Bah, je vais vous faire passer par là. C'est la rue des Charmettes.
Allons-y.
Voilà.
Donc là, on est sous un préau en pierre. Il y a aussi des grosses tours. Les piliers, on peut s'imaginer qu'ils sont vraiment depuis la construction du bâtiment. Et donc, vous nous dites qu'on peut ressortir par la toute petite porte qui est au fond de ce préau en pierre.
Ouais, c'est les vélos. Donc, pour nous maintenant, c'est la porte des artistes ici.
Eh bien, merci beaucoup.
Voilà, je vous en prie.
Merci bien.
Merci. Au revoir.
Nous remercions Joséphine pour sa disponibilité et la mairie pour avoir autorisé notre visite.
Pour approfondir, tenter de vérifier nos informations, nous sommes allés à la rencontre de résidents de l'EHPAD, Bon Accueil de Lagneux.
J'ai toujours vécu à Lagneux, depuis 1928, quoi. Dans 2 ans, j'ai 30 ans, à l'école, rue des écoles. Pour l'école maternelle, c'était mixte.
Et à l'école primaire?
Ah non, l'école primaire, non. C'est dommage.
Je suis né à Lagneux, puis j'ai quel âge? 1934, je ne me rappelle plus l'âge que j'ai. J'ai commencé à Lagneux, à l'école maternelle. Puis après, j'étais à l'école libre à Dagneux. Et mes parents m'avaient mis là.
D'accord.
Puis j'étais pensionnaire.
Je suis né en 1932. Ouais. J'étais à l'école, quoi, ça devait être aux écoles. Pas de lycéens du tout, hein. Il y avait des lycées, mais en Berrieux, à Bourg. Puis d'ailleurs, je suis pas à l'école jusqu'à 13 ans. À 14 ans, je suis sorti d'école. Je suis rentré à l'usine. Ils m'ont embauché à 14 ans à Saint-Gobain. À l'usine, j'ai fait tout mon temps à Saint-Gobain.
Oui, bon, c'est...
À travailler, faire les nuits. J'ai accepté, puis je suis là.
Ils avaient des vignes sur le coteau où on va à Gervais. Et ben, ça avait tout été racheté par de la Verpillière pour faire tout un domaine. Alors, ils avaient racheté toutes ces vignes.
Une trompette. Un petit casserole. Un goûter. Pour un goûter. Une petite casserole, 2 morceaux de sucre, du pain et puis...
Non,
ça ne se fait plus. Ça.
On partait en champ des vaches, ils sortaient de la casserole, ils sortaient le vin, le sucre, le pain, et on mangeait la trompette.
Les vignes, ouais. Je vais te dire, je vais te dire. Du mois de mars, c'est la taille, jusqu'au vendange, j'ai du boulot. Dans les vignes. Il y a le piochage, le sulfatage, relever la vigne, l'attacher. Il y a du boulot. Hein. C'est les vignes à mes parents, à mon père. Oui, oui. Mais c'était des petits coins qu'on avait. Nous. Ils mettaient des vignes dans des petits coins qui étaient en pente.
Ça s'appelait le tarot.
Tout ce qu'il y a derrière, toute la pente là, en dessous
la montagne.
La montagne là, c'était tout en vigne. Il n'y avait pas de broussailles, c'était que des vignes. C'est des vignerons. Ils vivaient de ça. Ils avaient un cheval et puis peut-être une vache, mais ils vivaient que de la vigne. Il y avait un monsieur à Lagneux qui s'appelait Monsieur Bouquet, qui était de la génération de mes parents. Et il chantait le petit vin éclairé de Gervais. Et il chantait bien. Gervais, vous savez où c'est?
C'est dans la montagne, en fait, à la croix de Grand-Mafran.
Oui, la montagne, la croix de Grand-Mafran. Ouais.
Ça vous parle, le vin nommé le Noah?
Ah! Excusez-moi de rigoler, mais...
Allez-y, hein.
Le Noah, oui. Mais il y en a encore dans les frichonnets, il y en a encore quelques vieux pieds. Alors ça a été interdit. C'est pas mal. Parce que, c'était pas bon. 2, quand on vendangeait. Et les noix, il suffisait de toucher le raisin pour que ça, pouf, ça tombe tout. Et les rangs de noix, ils étaient sur le bord des champs pour les délimiter. Ça servait à faire du vin blanc.
C'est
Et ce vin blanc, si vous en buvez trop, vous montez au ciel comme les petits oiseaux. Ça rendait malade, hein, c'était pas bon, ça valait rien. Et après, ça avait été interdit.
Merci aux personnes qui nous ont répondu et à l'équipe de l'EHPAD pour leur gentillesse.
La rencontre a été très agréable.
Malheureusement, pour notre travail de recherche, la plupart de leurs réponses étaient des éléments que nous savions déjà.
Mais cela nous a apporté des anecdotes sur leur vie. Ça aussi, ça fait partie du patrimoine, non ?
D'ailleurs, beaucoup d'entre eux nous ont parlé du passé viticole de Lagnieu.
Arnaud a fait des recherches sur cette part de l'histoire locale. On l'écoute.
Bonjour, je suis Arnaud. Effectivement, je vais vous parler de l'histoire des vignes de Lagnieu. On trouvait des traces de vignes dans le Bugey, déjà au XVIIe siècle. Rappelez-vous, le Bugey devient français en 1601. Lagnieu était vraiment une cité viticole. Il y avait beaucoup de vignes jusqu'en 1875 à Lagnieu. Les vignes s'étendaient partout sur la montagne de Montalieu à Saint-Denis. Mais un insecte appelé le phylloxera est arrivé dans l'Ain. Il a détruit presque toutes les vignes. Pour régler le problème, les vignerons ont greffé les cépages sur un bois américain. Ils ont utilisé des portes greffées, mais le mildiou et l'oïdium, des champignons ramenés d'Amérique, ont attaqué les vignes. Pour lutter contre les vignerons, devaient sulfater les vignes. Ils ont commencé dès 1920. À cette période, des vignes hybrides ont été plantées, mais interdites car ce vin était mauvais pour la santé. Dans les années 30, le vin nommé Noah, un cépage très résistant, était produit en grande quantité dans toute l'Europe, et notamment à Lagnieu. D'après une de nos sources, M. Facciotto, ancien habitant de Lagnieu, ce vin très juteux rendait fou, mais c'est surtout que les gens en buvaient trop. Par exemple, ils en buvaient en moyenne 10 litres par jour, mais le vin n'était pas comme aujourd'hui. Ils buvaient des vins de 6-7 degrés, alors qu'aujourd'hui, un vin de moins de 8 degrés n'est pas vraiment considéré comme un vin. À cette époque, la bouteille valait 1 franc, dont une consigne de 25 centimes. Dès 1930, les pieds de vigne Noah sont arrachés et sa vente est interdite. Mais la vigne continue à vivre à Lagnieu. Monsieur Pellerin est l'un des derniers viticulteurs de Lagnieu. Son vignoble s'étendait jusqu'à Saint-Sorlin avec son fils. Ils ont défriché un coteau à Lagnieu en 2019 pour y replanter de la vigne. 4 cépages très exactement. Les vignes ont donné leur première vendange en l'été 2022.
Nous avons pu parler avec un expert de France Agrimaire, un établissement national spécialiste des produits de l'agriculture. Il a pu compléter toutes les informations qu'on a récoltées cette semaine. On sait maintenant qu'en 1958, il y avait 68 hectares de vignes à Lagnieu et 260 exploitants. Il y avait 15 hectares de cépages européens et 46 hectares de cépages hybrides. On retrouvait aussi 6 hectares de raisins de table, c'est-à-dire du raisin alimentaire. En plus petite quantité, on retrouvait le fameux raisin interdit à la consommation, mais il y en avait quand même 5 hectares. Selon lui, à Lagnieu, on produisait surtout du vin de consommation courante, du blanc, du rouge, des vins précoces, pas précoces, des vins plus ou moins sucrés. Mondeuse noire, le noix, le bacot étaient des cépages principaux. D'ailleurs, vous aussi vous vous demandez comment ces noms étaient choisis ? Eh bien, on a la réponse. Les noms de cépages étaient donnés par les pépiniéristes qui trouvaient la variété du raisin.
Merci Arnaud, merci Océane.
Ainsi, depuis l'installation de la verrerie à Lagnieu, plus connue sous le nom de Saint-Gobain, les habitants travaillaient la journée à l'usine et le reste du temps dans leurs vignes.
Quelle vie !
Après notre visite de l'école, nous avons observé l'architecture et nous nous sommes interrogés sur la proximité de certains bâtiments.
La Croix-Rouge de Lagnieu est accolée à l'école. Océane, notre animatrice qui menait ce projet avec nous, a pris l'initiative de toquer.
Et elle a bien fait, car Jocelyne, bénévole à la Croix-Rouge, a répondu à nos questions.
Elle nous raconte ce qu'elle sait sur le passé de Lagnieu.
Excellent.
En fait, on sort... Vas-y,
essaie. Dis-moi.
On sort de l'ancien pensionnat qui est maintenant l'école du centre de la rue des Écoles. On a visité un peu pour voir à quoi ça ressemblait. Et du coup, maintenant, vous voulez interroger des personnes.
Quand on est sorti de l'école, on regardait le bâtiment de l'extérieur. Et moi, je me questionnais si là, maintenant, vos locaux actuels, ça faisait partie, en fait, du pensionnat et de l'école. Parce que le bâtiment, il est vraiment, de votre local, il est vraiment dans la continuité, en fait, de celui de l'école.
Alors, historiquement, je ne saurais pas vous dire, hein, parce que je ne me suis pas penchée sur le sujet, mais je pense effectivement que ça pourrait être. Ceci dit, ça a depuis longtemps été des endroits où les vignerons venaient faire leur vin. Il y a 4 cellules ici que l'on occupe, hein, et qui étaient en fait des endroits où les gens venaient faire leur vinification, ils avaient leur chai, et voilà. Pour nous, Croix-Rouge, pour nous, ça c'est une unité, si vous voulez. On a 4 bâtiments, je vous dis, avec des grandes portes cochères pour pouvoir entrer éventuellement une charrette ou quelque chose comme ça, ou un chai. La recherche que vous faites actuellement, elle est beaucoup plus ancienne. Donc avant, je ne sais pas ce que ça pouvait être. Un chai, ben, c'est l'endroit où on fait le vin, où on vinifie le vin, où on le presse, où on le traite, où on le soigne. Et puis après, où on l'élève. Les vignerons disent aussi qu'ils élèvent le vin. Et puis après, où on le met éventuellement en bouteille ou tout au moins déjà en tonneau. Ça, c'est sûr. Quand je suis arrivée à Lagneux, j'avais 8 ans, et donc je dis pas mon âge, mais il y a très très longtemps.
Et
il y a... il y avait des gens qui effectivement exploitaient encore comme ça. Il y avait encore des vignerons dans Lagneux. Le principe des moines à l'époque, quand ils s'installaient, effectivement, ils construisaient des grands bâtiments, soit pour eux-mêmes, soit effectivement pour éducatifs. C'est peut-être qu'ils enseignaient peut-être déjà aussi, certainement d'ailleurs. Et effectivement, comme ils étaient en autonomie, souvent ils cultivaient. Dans le coin, il y avait des vignes, hein. Il y a toujours des vignes en haut. Sur le coteau du Bramafan. Alors, il y a des vignes tout au-dessus et il y a des jeunes vignerons qui ont même replanté il n'y a pas très, très longtemps. Je veux dire que c'est entretenu. J'allais vous dire, il faut aller voir Jean-Christophe Pellerin parce que c'est un des derniers jeunes vignerons et qui a une vinification qui est encore particulière, qui est améliorée, bien sûr, au fil du temps. Le vin, c'est toujours le vin, mais on le travaille de façon différente,
oui,
au fil des siècles.
Si il revenait... qui reprenaient les bouteilles pour les re-remplir, que ça ne se faisait plus à l'époque, enfin, pendant un temps, et que maintenant, ils reprenaient pour des soucis financiers, et notamment par rapport à l'eau, où ils expliquaient que rincer une bouteille, ça consommait beaucoup moins d'eau qu'en fabriquer une. Mais du coup, est-ce que vous, donc quand vous êtes arrivés, il y avait des vignerons, mais après, nous, il nous a dit aussi que bah, maintenant, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de vignes qu'à l'époque, que sur ce qu'on voit sur les photos. Est-ce que vous nous saurez nous dire à peu près à partir de quand les vignobles... Parce que nous, il nous a parlé, en fait, de l'arrivée de Saint-Gobain.
À l'époque de Saint-Gobain, effectivement, on a pris pas mal de terrain sur les coteaux. L'usine s'est installée. Et du coup, les personnes qui travaillaient justement la terre, eh ben, ils ont trouvé des emplois à l'usine qui étaient plus rémunérateurs. Et souvent, les gens qui travaillaient en usine à l'époque, ils étaient très courageux, donc ils avaient encore leurs vignes parce qu'ils cultivaient en même temps. Moi, je connais plein de personnes comme ça qui avaient trouvé un emploi rémunérateur et sûr, mais en même temps qui continuaient. Et puis après, les gens... La vie a changé, hein. On la voit changer au fil du temps, on la voit encore beaucoup changer. Les gens, ils avaient un bon travail... j'allais dire, il fallait être passionné pour continuer à aller travailler la vigne, hein, qui est assez exigeante. Hein, il faut y être presque tout le temps, quoi, régulièrement en tout cas. Je pense que c'est l'évolution de la vie, tout simplement. Alors, il y en a quelques-uns qui étaient des passionnés, qui ont continué. Et puis, il y en a quelques-uns qui l'ont fait à titre plus léger, j'allais dire. Voilà. Alors, je vais vous dire une astuce. Vous ne la connaissez certainement pas, cette anecdote. Quand je suis arrivée à Lagneux, j'avais 8 ans. Et j'avais une mamie qui habitait, vous voyez la place de la Liberté, oui. La petite rue des Juifs qui monte là, oui. Hein, elle me parlait toujours de la porte d'en bas. Elle me dit, tu vas me chercher quelque chose à la porte d'en bas. La porte d'en bas, c'était le bout de la rue des Juifs qui débouchait sur la place de la Liberté. Parce qu'autrefois, cette ville, c'était une ville fermée. Donc là, c'était la première porte. Le château était en bordure, là, c'était la bordure de la ville qui gardait la ville. Oui. Et puis quand on arrive ici, c'était la porte d'en haut. Quand on arrive là, au bout de la rue où est l'école, justement, que vous recherchez actuellement, là, sur laquelle vous travaillez en tout cas, eh bien, c'était la porte d'en haut. Et c'était une ville fermée. Voilà. Et je te parle ça du Moyen-Âge. Et pourquoi Lagneux s'était installé comme ça? C'est parce qu'il y avait de l'eau. Lagneux, c'est une ville d'eau. Il y a des sources. Il y a des sources de partout où il y avait de l'eau. C'était des sources naturelles. Mais là, c'était une ville de tanneurs autrefois. Il y avait des tanneries. Il y a une rue des tanneries. C'est parce qu'il y avait des tanneurs. Qui dit tanneur, on tanne les peaux et on a besoin de beaucoup d'eau.
Notre émission touche à sa fin.
On espère que vous avez appris plein de choses.
On remercie Océane, notre animatrice.
Mais d'ailleurs, on aimerait vous dire une dernière chose.
Tout à fait. Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Je suis Océane. J'ai encadré le groupe qui s'est investi cette semaine dans le projet d'émission radio sur le patrimoine. Et je voulais vous partager leur investissement. Parce que ce n'est pas évident de faire des recherches et d'écrire quand les copains à côté font du sport et des jeux. Alors bravo à eux. Je vous raconte l'histoire. Tout a commencé par le projet Arrosons la Plaine, mené par la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Grâce à eux, nous avons rencontré Perrine, animatrice de Radio B.
Elle a complété nos idées, nous a expliqué réellement en quoi consiste son métier et nous a montré le fonctionnement des micros. Mais le travail a commencé avant cette semaine. Nous avons créé le groupe de jeunes, expliqué ensemble ce qu'était le patrimoine et décidé de l'élément sur lequel nous souhaitions travailler. J'avoue que moi aussi je me suis prise au jeu. J'ai contacté la mairie pour publier un post Facebook. Ça nous a aidé à faire connaître le projet et à récolter nos premiers témoignages. Ensuite, Perrine nous a accompagnés tous les matins dans les recherches et l'écriture de l'émission. Tous les après-midi, nous avons continué à creuser avec assiduité. Et pour que ce soit facile à comprendre, nous avons commencé par dessiner des cartes mentales au tableau et il était interdit de les effacer toute la semaine. Une première nous a permis de comprendre ce qu'est une radio et ce qu'on devait faire pour créer une émission. Une seconde nous a permis d'organiser toutes les informations qu'on récoltait au fur et à mesure de nos recherches. Parce qu'on en a passé des coups de téléphone. Et on s'est rendu compte que les gens adorent partager leur histoire et même s'ils n'étaient pas disponibles pour une interview, ils ont répondu à nos questions par téléphone. Ça nous a permis de sortir de la pyramide et d'enregistrer nos rencontres à l'extérieur. Une vraie nouvelle expérience. Bien sûr, parfois il y avait des petites déceptions, comme la fois où nous sommes allés toquer chez un témoin qui n'a pas répondu. Mais nous avons vite rebondi et continué à écrire nos chroniques. Et puis, même si créer une émission en une semaine, ça paraissait court, nous nous sommes investis à fond et avons créé d'autres opportunités de visite et de rencontres. Le dernier point à régler entre nous ? Le choix du générique. Pas toujours évident de se mettre d'accord, mais on a réussi quand même. Vous en pensez quoi, vous ?
Vous écoutez Radio B. Radio B.
Pour cette émission, on remercie la communauté de communes de la Plaine de l'Ain,
la municipalité de Lagnieu,
l'association Alpha 3A, gestionnaire de la pyramide Agora,
Monsieur Chabou, adjoint au maire en charge du patrimoine de Lagnieu,
Monsieur Daniel Facciotto, ancien habitant de Lagnieu,
Monsieur Pellerin, vigneron à Lagnieu,
Delphine, animatrice à la maison de retraite Bon Accueil,
Joséphine Hatzem à l'école maternelle du centre,
Jocelyne, bénévole à la Croix-Rouge.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés.
À bientôt
sur les bonnes ondes de Radio B.